Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Toujours ici à Roland-Garros, sous la pluie, une petite pluie d'orage avec tout à l'heure quand même des beaux éclairs. Hein. Je vous signale quand même, on est dans un studio en face du châtrier qui a sa petite fragilité. Avec les orages, on a eu un petit peu peur quand même tout à l'heure, hein, il faut le dire. Un petit coup de semonce qui n'a pas été de tout repos. Nous sommes ici à Roland-Garros pour parler de politique. Ben oui, puisque de la politique au sport, il n'y a qu'un pas avec Arnaud Benedetti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et bonsoir à Dorian Dreuil.
Bonsoir.
Politologue, cofondateur de l'ONG, a voté. Vous avez tous les deux lu, j'imagine, attentivement l'interview du président ce matin dans la presse quotidienne régionale et notamment dans le journal Aujourd'hui en France, où il y a plein de choses. On est à une semaine des législatives, Arnaud Benedetti, et c'était nécessaire de sortir de ce silence avec cette grande interview, j'allais dire balai, qui balaye absolument tous les sujets, de Mbappé à l'affaire Damien Abad, en passant par le pouvoir d'achat, le conseil de la refondation qui s'apparente au conseil de la résistance, etc.
La réalité, c'est que le président de la République est obligé de descendre dans l'arène à 10 jours de l'élection législative du premier tour parce que c'est une élection peut-être plus incertaine qu'il ne l'imaginait au moment de sa reconduction, avec une pression qui s'exerce malgré tout sur finalement l'horizon de la majorité absolue. Y aura-t-il une majorité absolue ou pas? Ensuite, parce qu'il y a la nécessité pour lui de clarifier un certain nombre de choses au regard de ce qu'a été la campagne des présidentielles, où finalement il a été plus élu au second tour par défaut que par adhésion, sachant que son projet finalement n'est pas apparu comme très clair pour une grande partie de l'opinion publique. Donc il a besoin aujourd'hui qu'il a nommé une première ministre, qu'il a un gouvernement, il a besoin vraisemblablement d'expliciter quel est ce projet. Alors est-ce qu'on ressort de la lecture de cette interview dans la presse quotidienne régionale, ce qui n'est pas neutre d'ailleurs, hein, aller chercher la presse quotidienne régionale, il s'adresse à la France, notamment à la France, une partie de la France périphérique, celle qui n'a pas voté
la
forcément
France des
pour
territoires,
lui,
même si c'est
celle,
mal,
qui n'a, celle qui n'a pas forcément voté pour lui au premier, même au second tour. Mais est-ce qu'on ressort, disons, avec une vision plus claire de ce qu'il veut faire? Je dirais que c'est une interview qui est quand même un peu catalogue, avec un certain nombre de collages, mais on ne voit pas véritablement la ligne. Par exemple, il y a un sujet qui n'est pas du tout abordé,
et
qui est pourtant un sujet essentiel, c'est le sujet de la dette publique.
Oui.
Donc on voit bien que la question du pouvoir d'achat est une question qui est essentielle, bien évidemment, dans le combat des législatives, notamment du fait de la pression de l'Alliance de gauche, hein, et de Jean-Luc Mélenchon.
Donc vous
et cette,
que
question de, cette question de la dette publique, qui parle quand même à une partie de son électorat,
c'est-à-dire,
elle n'est pas abordée dans cette interview.
Oui, donc ça veut dire c'est une interview électorale.
C'est une interview de combat, en effet, afin de conduire la bataille des législatives.
Dorian Dreuil, comment est-ce que vous avez apprécié cette interview du président?
Bien, écoutez, comme le disait Arnaud, c'est une interview assez catalogue dans lequel on a énormément de sujets qui sont balayés. Moi, il y a un de ces sujets dans le catalogue que je trouve assez intéressant, c'est la question du Conseil national de la refondation,
oui.
Parce qu'il met en pratique, il explicite les engagements du président de la République pendant la campagne, quand il annonçait la création, d'un grand débat permanent, quand il disait qu'il y aurait un changement de méthode de gouvernance, et on se sent, c'est assez positif. Parce qu'effectivement, les gens sont lassés, fatigués de la manière dont on dirige le pays, dont on conduit la politique aujourd'hui. D'ailleurs, le taux d'abstention lors de l'élection présidentielle et le taux d'abstention certainement très fort à venir lors des élections législatives en sont des symptômes de cette volonté de changer la méthode de gouvernance et de changer la manière dont on conduit aussi les grands débats qui structurent notre pays. Aujourd'hui, il y a des grands enjeux, des grands sujets sociaux ou sociétaux qui ne peuvent plus être tranchés par l'élection présidentielle à elle seule. Et donc sur ces sujets, il y a un besoin de concertation avec les acteurs de la société civile, avec les forces économiques, sociales, syndicales. Il y a aussi un besoin de plus de participation citoyenne. Et en ce sens, c'est intéressant de voir que le quinquennat qui vient pourra être celui où finalement on débat assez largement de ces grands sujets avant de les trancher dans les cadres politiques et démocratiques classiques que sont le Parlement, que sont le travail du gouvernement.
Et ça, ça, c'est intéressant parce que ce matin, dans les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta soulignait très justement que cette grande assemblée, si jamais elle se constitue, met à mal complètement le Parlement. Ça veut dire ça fait faire fi de la représentation nationale par les députés.
Non, au contraire. Au contraire, je pense que ce sont des outils de démocratie délibérative, participative, qui sont complémentaires en fait à la démocratie représentative. Vous ne pouvez plus dire aux gens venez voter une fois tous les 5 ans et puis on se retrouve à la prochaine fois si vous n'êtes pas d'accord ou si votre débat n'a
pourquoi
pas été
pensé. Pourquoi vous dites on ne peut plus ? C'est le principe de la démocratie représentative justement.
Alors, je pense qu'il y a un changement dans la société de rapport au temps démocratique. Et ce changement de rapport au temps démocratique, qui se manifeste notamment par des taux d'abstention de plus en plus forts, on peut justement l'accompagner et on peut, je pense, redonner confiance et retisser du lien entre les Français et la chose publique et la chose politique en faisant coexister différents types de démocratie. Il ne s'agit pas de délimiter.
C'est du en même temps constitutionnel ce que vous faites là.
C'est du en même temps démocratique et constitutionnel. Tout à fait. Je pense que même c'est de nature à renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a un théoricien assez connu qui a pensé déjà tout ça, c'est Roger Habermas, qui disait que pour qu'une norme sociale soit acceptée ou qu'une nouvelle norme soit acceptée, il faut qu'elle ait eu l'écho, la résonance nécessaire pour de débats dans la société avant de rentrer dans les formes plus institutionnalisées de travail démocratique que sont l'Assemblée nationale. Et donc, c'est la question du grand débat permanent. C'est-à-dire que si vous faites vivre ces sujets, ces débats avec de la participation citoyenne, avec les corps intermédiaires, avec la société civile organisée, ce débat n'en sera que plus fort et plus intéressant quand il arrivera à l'Assemblée nationale et qui sera tranché en définitive par le pouvoir du Parlement et de l'Assemblée nationale qui aura dans tous les cas le dernier mot, celui de la création de la loi.
D'accord avec ça, Arnaud Benedetti. Enfin, on a l'impression d'être dans le canton d'Appenzell où on vote à main levée, quoi.
Je suis, à titre personnel, plus mitigé parce que, si vous voulez, Emmanuel Macron est à la fois le produit et le symptôme de la crise de la représentation. Mais cette crise de la représentation, elle est plus forte en France qu'ailleurs. D'ailleurs, quand on regarde finalement les taux d'abstention lors des élections, ils sont plus forts en France que chez nombre de nos voisins européens. Donc il faut s'interroger justement sur cette crise de la représentation et la singularité française de cette crise de la représentation. Moi, j'ai envie de dire, il existe quand même des instances pour délibérer en France. Vous avez parlé du Parlement, bien évidemment. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale, vous parlez du Sénat, c'est quand même la Chambre des collectivités locales. Je rappelle qu'il y a une autre chambre, la troisième chambre, qui est censée représenter les forces vives du pays, c'est le Conseil économique et social environnemental. Donc on a les outils institutionnels en France pour, d'une certaine manière, pouvoir délibérer et finalement trouver des chemins qui permettent à un moment donné de coproduire des décisions. J'ai le sentiment que, si vous voulez, Emmanuel Macron, aujourd'hui, essaye de gérer cette crise de la représentation comme il a dû gérer à un moment donné la crise des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'en fait il a un format un peu prototype qui est celui du grand débat dont il pense qu'il lui a permis de sortir de la crise des gilets jaunes, ce qui reste à démontrer. Je pense qu'il est sorti de la crise des gilets jaunes parce qu'il y a eu des moyens financiers qui ont été mis sur la table à un moment donné, parce qu'on a supprimé l'augmentation de la taxe carbone, parce qu'il y a eu aussi à un moment donné une moindre adhésion au mouvement des gilets jaunes du fait d'un certain nombre de violences, mais il considère finalement que le grand débat c'est un peu, si vous voulez, le prototype de ce qu'il faudrait faire en continu dans la vie politique française pour finalement faire en sorte que les Français réadhèrent aux institutions. On verra bien. La réalité, c'est que le grand débat n'a pas permis finalement une hausse de la participation électorale lors des élections présidentielles par rapport à 2017. Et il n'est pas du tout sûr que finalement ce prototype fasse que dimanche prochain plutôt, les Français aillent plus voter en raison des propositions que vient de faire Emmanuel Macron. Donc il y a là une forme de béance qui, à mon avis, ne permet pas forcément de résoudre cette crise de la représentation que nous traversons.
Dorian Dreuil, il y a quand même, on entend le réveil ou la montre faire tic-tac, quoi. On est à 8 jours, demain ça fera une semaine pile pour le premier tour de la législative. On sent que là, il faut sortir du bois et qu'il faut donner un grand coup de massue, en tout cas un grand coup de stabilo-boss sur les réformes à venir.
Oui, en fait, il faut remettre de l'intensité politique dans la campagne, parce que c'est ce qui détermine principalement si les gens vont voter ou pas. Alors, ces élections législatives, elles ont une singularité, c'est qu'elles ont commencé assez tôt. La mèche est partie tôt, avec notamment Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Donc, cette campagne, elle avait d'une certaine manière déjà commencé alors que l'élection présidentielle ne s'était pas terminée. Et elle s'est essoufflée. C'est notamment dû au fait qu'il y a un temps beaucoup plus long par rapport aux élections précédentes entre le deuxième tour de la présidentielle et le premier tour de l'élection législative. Donc là, c'est aussi une manière de remettre de l'intensité politique dans la campagne.
Alors, elle s'est essoufflée, et c'est ça qui est paradoxal, et je parle sous votre contrôle à vous deux, elle s'est essoufflée au niveau national. Par contre, dans certains territoires, la campagne, elle bat son plein. Hein.
Oui, mais je pense que c'est une campagne législative très différente des campagnes législatives qu'on a connues finalement depuis 2002, où tous les présidents de la République ont finalement pu bénéficier et disposer d'une majorité absolue sur le plan législatif. Et je pense qu'il y a une véritable incertitude qui plane sur le résultat et l'issue de cette campagne, parce que d'abord, la grande différence par rapport aux campagnes précédentes, c'est que le champ politique, le champ partisan, est beaucoup plus désagrégé qu'il ne l'était il y a même encore 5 ans, en 2017. Aujourd'hui, on voit que finalement, il y a un travail de décomposition qui est beaucoup plus accéléré et qui fait que les électrices et les électeurs ont plus de mal finalement à se repérer et à s'identifier. Ouais. Et ça peut avoir un effet sur, en effet, les résultats locaux. Parce que ce que vous dites est extrêmement intéressant. Une élection législative, c'est une élection nationale, mais c'est aussi une élection locale où finalement, la personnalité du député, c'est un peu la personnalité politique qui, à côté de celle du maire, incarne le territoire d'une certaine façon. Et la désagrégation au niveau national fait que les paramètres locaux peuvent être peut-être plus importants. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnalités qui peuvent avoir des étiquettes qui, sur le plan national, ne sont pas des étiquettes très porteuses, peuvent retrouver une performance électorale du fait de leur implantation locale. Et vous savez, après, l'addition de chacun de ces résultats sur 577 circonscriptions, ça peut, en effet, créer une surprise au final.
Et c'est la raison, et vous parliez effectivement de l'offre électorale et partisane qui n'est plus du tout la même au niveau national, et c'est la raison pour laquelle les LR, qui n'existent quasiment plus, qui ont fait 4-7 avec Pécresse à la présidentielle, sont très présents dans certains territoires par l'efficacité effectivement d'un élu sur place ou d'une élue, et c'est exactement la même chose pour le Parti Socialiste.
Je rappellerai qu'en 2017, alors la situation était très différente pour les LR, parce qu'en effet, le candidat à la présidentielle avait fait plus de 20% et que là, la candidate des LR est à moins de 5%. Mais en 2017, quand on regardait les projections en termes de sièges, on avait des projections qui étaient en deçà de ce que donnera le résultat des LR ensuite en 2017. Donc là aussi, pour ça, il faut être extrêmement prudent.
Dorian Dreuil.
Oui, je suis assez d'accord avec Arnaud. Il faut être très prudent parce que c'est une élection qui ne ressemble pas aux autres, aux précédentes. Et notamment avec une particularité que je trouve assez paradoxale, c'est qu'on mène cette campagne pour les législatives comme si on était dans un système parlementaire. Donc il y a cette dissonance de sortir d'une élection présidentielle avec l'instauration d'une figure de la chef de l'État, du chef de l'État, et derrière une forme de finalement un retour 4e République, avec des accords de parti, des coalitions, des fédérations, beaucoup de discussions d'appareils, et puis une campagne pour savoir qui sera élu potentiellement Premier ministre ou quelle couleur donnera la nomination de Matignon, comme si on était dans un système parlementaire, ce qui n'est pas le cas. Et donc ce qui même si de manière très institutionnelle la majorité devrait être reconduite, peut laisser quelques surprises, notamment sur la relativité de la majorité qui se dégagera.
En tout cas, dans cette interview, il y a quelque chose qui sans doute nous a fait tous sourire, c'est ce fumage en règle de Jean-Luc Mélenchon, où le président dit aucun parti politique ne peut imposer un Premier ministre au président de la République.
Oui, mais enfin, une majorité peut in fine finir par imposer un leader.
On a bien compris que si c'était la NUP, il ferait exprès de choisir justement quelqu'un d'autre que Mélenchon.
Oui, alors c'est assez étonnant parce que tactiquement, on se pose la question de la position finalement de la majorité aujourd'hui présidentielle par rapport à la pression de la NUPS. C'est que soit on la diabolise et on voit qu'on a quand même un travail qui consiste à faire peur, notamment à l'électorat, pour l'électorat conservateur sur un certain nombre de propositions de la NUPES. Et en même temps, on a le sentiment, à travers l'interview du président de la République, qu'il la reconnaît comme finalement l'opposition principale aujourd'hui à sa majorité. Donc, il donne du crédit, d'une certaine manière aussi, à travers ce qu'il dit vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on est là, j'allais dire, dans une dimension assez ambivalente où on ne sait pas si finalement il s'agit d'avoir une intention tactique pour faire peur à une partie de l'électorat conservateur de finalement la pousser mélenchoniste ou de la pousser de la NUPES ou est-ce que c'est véritablement une crainte qui est intériorisée par le président de la République et que, en l'occurrence, en effet, aujourd'hui, il y a une pression qui s'exercerait politiquement sur la majorité.
Alors, une campagne qui avance petit à petit, on l'a vu, pas du tout de la même façon au niveau national qu'au niveau territorial, si j'ose dire. Et puis, alors, il y a quand même des obstacles. Alors, on a beaucoup parlé de l'affaire Damien Abad. On a dernièrement quand même ce qui s'est passé au Stade de France. On a une espèce d'épée de Damoclès, de plafond de verre, comme quoi la France ne sait pas gérer la violence avec toutes les conséquences politiques qui reviennent dernièrement. Et puis, c'est aussi greffé cette enquête, notamment du journal L'Opinion, qui révèle qu'effectivement, dans certaines académies, on a du mal à lutter contre des élèves qui arrivent en classe avec des tenues culturelles très marquées, notamment tenues islamiques.
La séquence est intéressante parce que finalement, régalienne, et j'allais dire presque la question identitaire aussi, d'une certaine manière, reviennent au centre du débat politique après avoir été un peu effacées durant l'élection présidentielle par la question du pouvoir d'achat. Finalement, ce qui avait été au début de la campagne présidentielle ou de la pré-campagne présidentielle, l'enjeu essentiel, notamment avec l'émergence de la candidature d'Éric Zemmour, avait été ensuite plus ou moins mis de côté parce que les questions économiques, les questions sociales étaient redevenues les questions essentielles dont on avait quand même débattu durant cette élection présidentielle.
Ça a été que de l'économie.
C'est effarant.
On n'a absolument pas abordé les questions.
Exactement. Et là, avec ce qu'on a vécu avec le Stade de France, ces questions sont en train de revenir. Alors avec un positionnement quand même d'Emmanuel Macron qui est un peu différent, parce que Emmanuel Macron était quelqu'un qui, durant son mandat, avait quand même largement incité à penser qu'il avait repris le registre républicain classique qu'incarnait par exemple très bien Jean-Michel Blanquer ou que peut par exemple incarner Gérald Darmanin. Et depuis finalement 15 jours, notamment depuis la nomination entre autres de son ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui la façon dont Gérald Darmanin traite en termes de communication politique les événements du Stade de France, on a le sentiment qu'on a plutôt une jambe gauche ou centre-gauche qui semble s'activer sur ce type de questions. Comme s'il ne fallait pas donner, d'une certaine manière, à nouveau, de la matière à Jean-Luc Mélenchon pour, d'une certaine façon, activer, mobiliser un électorat qui serait susceptible et dont on a vu qu'il était susceptible de se mobiliser en sa faveur. Mais le risque que prend, en effet, Emmanuel Macron, à travers cette relative gauchisation de son discours sur ces questions-là, en tout cas la modération par rapport à ce qu'il voulait mettre en avant durant son quinquennat, c'est de perdre finalement une partie de l'électorat de droite qui pourrait considérer qu'il manque de fermeté.
Dorian Dreuil sur ce sujet. En une minute.
Oui, sur ces sujets, il y a une tension et un niveau de tension qui est, je pense, dû, et c'est ce qui explique que ça revient dans le débat aujourd'hui, qui est dû au fait que l'élection présidentielle n'a pas tranché politiquement ce sujet. Quand on voit dans l'expression des suffrages et des votes qu'il y a pu avoir dans l'élection présidentielle, il y a pour certains groupes politiques et pour certains courants une priorité à donner sur ces enjeux, mais qui n'a pas été tranché politiquement. Et donc, il faut espérer que la coloration de l'Assemblée nationale à venir puisse aussi trancher politiquement un certain nombre de sujets qui ne l'auraient pas été parce que pas assez débattus ou parce que pas au cœur des campagnes, notamment d'une campagne particulière qui a été courte et monopolisée par des enjeux économiques.
L'audition de Gérald Darmanin, notamment sur l'affaire du Stade, a été par certains observateurs qualifiée de déni sur ces bandes, non pas rivales, mais ces hordes qui sont arrivées comme ça des cités. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a aussi une façon pour l'exécutif de justement de surtout pas parler de ça, Dorian Dreuil?
Ah, je pense que l'exemple du Stade de France met en avant un tout autre dysfonctionnement qui est celui de comment ont pu travailler différents services et différents ministères, différentes tutelles avec les organisateurs dans la gestion et l'anticipation des débordements de ce match. On peut pas.
Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord avec Dorian Drey?
Je pense qu'en tout cas, si vous voulez, Gérald Darmanin, qui était l'homme qui avait réconcilié le gouvernement avec la police, se retrouve là aujourd'hui dans une situation un peu plus compliquée. Parce que quand on écoute les syndicats de police, ils mettent en cause la façon dont a été organisé en effet le maintien de l'ordre, qu'ils n'ont pas été suffisamment associés en amont à l'organisation de la préparation. Et ils attaquent bien évidemment très frontalement le préfet de police. Et on a vu quand même un Gérald Darmanin et un président de la République qui soutiennent leur préfet de police.
Et c'est là que ça fait débat. Messieurs, malheureusement, nous sommes obligés de nous arrêter, mais évidemment, on continuera de reparler de tout ça. Merci à vous, Arnaud Benedetti, Dorian Dreuil, dans un instant le journal de 19h, et juste après, le jubilé de platine d'Elisabeth II. À tout de suite.